L'été dernier, nous sommes partis en famille pour visiter l'ouest du Canada. Et pour y arriver, nous avons traversé les milliers de kilomètres qui nous séparent des provinces de l'ouest. Ça veut dire qu'il faut traverser toutes ces plaines immenses et infinies du Manitoba et Saskatchewan. On roule pendant des milliers de kilomètres sur des routes toutes droites, sous la chaleur du soleil, et des routes qui sont pratiquement pas fréquentées. Il n'y a pas de voiture, il n'y a presque personne. Des routes toutes droites, pendant des milliers de kilomètres. Il arrive inévitablement qu'après un certain temps, on est un petit peu fatigué, on a tendance à s'assoupir au volant. Et c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, je me suis réveillé en me disant, j'ai été absent quelques secondes. Il m'a manqué un petit bout du paysage. Alors on se retrouve un petit peu plus près de la ligne centrale ou un petit peu plus près des bandes sur le côté. Vous savez, les petites bandes qui font ta 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 ta, qui sont là pour vous réveiller d'ailleurs. Et quand ça nous arrive, on est plus réveillé que jamais parce qu'on se dit, oh là là, je me suis endormi. Quelques secondes suffisent. Quelques secondes suffisent en réalité pour être mortelles parfois. On s'est endormi parce que la route est longue, parce que la route est droite, parce qu'il y a peu d'autres gens qui voyagent. Et j'ai l'impression que cette situation-là ressemble un peu à la situation de l'Église, à notre situation personnelle aussi. On est fatigué par le voyage. L'année passée, nous avons célébré le 150e anniversaire de notre nom, Adventiste du septième jour. Et quand on y pense, cela veut dire qu'il y a 150 ans que nous prêchons le retour de Jésus et que Jésus n'est pas encore revenu. Je sais, le plan de Dieu ne connaît ni hâte ni retard. Mais cependant, nous devons reconnaître qu'en contemplant la tâche à accomplir, nous nous sentons totalement dépourvus. Comment sera-t-il possible de rejoindre le monde entier avec le message de l'Évangile, alors que la population du monde augmente si vite? C'est une tâche énorme, c'est une tâche impossible. D'ailleurs, vous vous souvenez cette lettre que Jésus envoie à la dernière église, à l'église de Laodicée. C'est une lettre dans laquelle Jésus s'adresse à une église qui s'endort, une église propre suffisante, une église qui semble n'avoir besoin de rien et qui s'assoupit, bien qu'elle soit la dernière, celle qui précède immédiatement le retour de Jésus. Par conséquent, devant l'incapacité que nous avons de remplir le mandat que Dieu nous a donné, devant cet assoupissement qui est le nôtre en tant qu'individu, en tant qu'Église, nous sentons le besoin de vivre véritablement un réveil. Un réveil et une réforme. Pour comprendre comment un réveil est réalisable, j'aimerais reprendre avec vous ce matin un exemple biblique de réveil, qui se trouve dans le deuxième livre des Rois au chapitre 22. Et qui est raconté aussi dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34. Le même récit est rapporté avec quelques nuances. Mais j'aimerais regarder l'histoire de ce roi Josias. Vous vous souvenez de ce petit roi Josias qui monte sur le trône à l'âge de 8 ans. Il va régner pendant 31 ans à Jérusalem. Il est en réalité le petit-fils d'un roi connu pour le mal qu'il a fait et qui s'appelle Manassé. Manassé est célèbre pour avoir conduit le peuple de Juda dans l'idolâtrie, dans la perversion, dans l'abandon de Dieu. Le père de Josias, Amon, n'a pas fait mieux. Il a régné seulement 2 ans parce qu'il a continué les abominations de son père Manassé et ses serviteurs étaient tellement dégoûtés de sa manière de faire qu'ils l'ont assassiné après 2 ans de règne. C'est pour cela que Josias est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Après quelques années, Josias va faire quelque chose d'intéressant. Et ça nous est rapporté dans le deuxième livre des Rois au chapitre 22. Il nous est dit que Josias va lever des fonds pour restaurer le temple de Jérusalem. Il va prendre conscience du fait que ce temple est rendu à l'abandon. Ce temple est mal entretenu. Il est délabré. Il faut le restaurer. Il va recueillir des fonds pour cela et il va embaucher des artisans pour remettre ce temple en état. Dans 2 Rois, chapitre 22, il est dit au verset 4, par exemple, le roi s'adresse ici à ceux qui le servent et il dit « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Josias prend conscience qu'il faut restaurer le temple. Il y a des réparations à faire. C'est, je crois, le premier ingrédient d'un réveil. Prendre conscience des besoins que nous avons. Prendre conscience de notre besoin de restauration. De la même manière, à cette époque-là, le peuple s'était endormi, spirituellement parlant. Il avait même été entraîné dans le culte des dieux étrangers. Et le peuple avait négligé, comme les rois d'ailleurs, les choses de Dieu. Ils étaient entraînés par l'idolâtrie. Et aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas entraînés par l'idolâtrie de la même manière, mais les soucis de la vie nous ont amenés à négliger les choses de Dieu. C'est ainsi que nous n'avons pas le temps pour cette étude quotidienne de la parole de Dieu. Passer du temps à écouter la parole de Dieu. Et puis nous sommes trop fatigués pour venir à l'école du sabbat parce qu'on a travaillé dur pendant la semaine. Et puis nous n'avons pas le temps pour la réunion de prière parce qu'il faut les travailler le lendemain. Et on réalise que nos dettes sont trop grandes pour apporter des dîmes et des offrandes. Et ainsi, les soucis de la vie, la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous a conduits à négliger les choses de Dieu. Josias va s'atteler à cette tâche de restaurer le temple. Cette restauration du bâtiment est en réalité une image de la restauration qu'il veut pour le peuple entier dans le domaine spirituel, par rapport au culte de Dieu. Nous avons aussi un temple à restaurer, parce que nous avons des besoins. Alors il y a le temple bâtiment à restaurer, et il est vrai que parfois le bâtiment a besoin d'une restauration, mais ce n'est pas de ce bâtiment-là que je voudrais parler ce matin. Je voudrais parler de ce temple du Saint-Esprit que nous sommes chacun. Ce temple du Saint-Esprit qui a besoin aussi d'être restauré. Nous avons sans aucun doute besoin de reprendre ces principes de santé qui nous permettent de vivre d'une manière saine et équilibrée. Mais nous avons aussi besoin de restaurer notre vie spirituelle et de retrouver l'équilibre dans notre vie spirituelle. Prendre conscience des besoins qui sont les nôtres et de cette entreprise de restauration qui s'impose pour qu'un réveil puisse avoir lieu. Dans le livre du prophète Agée au chapitre 1 et au verset 7 se trouve cette parole très courte mais qui représente en réalité tout un programme. Agée chapitre 1 verset 7 dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Faire autrement dit l'état des lieux, regarder où nous en sommes, faire le point, faire le bilan et savoir quels sont nos besoins réels, prendre conscience de la réalité de notre situation et prendre conscience de ce qui est nécessaire de faire pour y remédier. Un autre passage dans le livre des Psaumes exprime cette même requête de la part de David. C'est dans le psaume 139, à la fin de ce psaume, David s'adresse à Dieu par cette prière. Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Il est écrit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est cette même prière que David adresse à Dieu. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi où j'en suis. » C'est, je crois, le premier point, le premier ingrédient nécessaire pour qu'un réveil puisse se réaliser. Prendre conscience de notre besoin. Le deuxième ingrédient d'un réveil se trouve encore une fois dans l'histoire de Josias. Et j'aimerais le regarder au travers d'un texte qui se trouve dans l'autre récit, c'est-à-dire dans le livre des Chroniques, au chapitre 34. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 34. Au verset 14 et 15, il est écrit ceci. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 34, versets 14 et 15. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Quand on y pense, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils sont occupés avec la restauration du temple, et tout d'un coup, ils trouvent le livre de la loi. C'est assez incroyable. C'est dire qu'ils avaient perdu le livre de la loi. Alors, transférez cette histoire simplement dans le contexte que nous vivons. Imaginez que ce soit le printemps, le soleil brille, il commence à faire chaud, et il y a cette fièvre du nettoyage de printemps qui vous prend. Alors vous allez chercher aspirateur, chiffon à poussière, tout ce qu'il faut pour faire le grand nettoyage de printemps dans la maison. Et vous allez cette fois-ci aller dans les coins, derrière les meubles et partout. Et en allant derrière le sofa, vous voyez un livre là-bas derrière. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il fait là ce livre? Alors vous tirez le meuble, vous allez derrière, vous trouvez, ah, c'est ma Bible! Dites donc, ça c'est fantastique, je l'avais perdu depuis plusieurs années. Alors vous appelez votre mari, vous appelez votre femme, et tu sais pas quoi? Derrière le sofa, j'ai trouvé ma Bible. Ça faisait 4 ans que je ne savais plus où elle était. Je suis content, j'ai retrouvé ma Bible. Incroyable! Incroyable! Et c'est dans le temple que le livre de la loi de Dieu avait été perdu. C'était une partie du livre du Deutéronome. Souvenez-vous que c'était une prescription de l'Ancien Testament lorsqu'un roi montait sur le trône. Il était supposé écrire de sa main le texte de la loi, de manière à ce qu'il puisse le comprendre, l'apprendre, le connaître, l'enseigner et surtout le mettre en pratique. On est loin de ça. Le livre de la loi était tout simplement perdu. Il n'en connaissait pas même le contenu. Il ne l'avait pas lu depuis des années. La loi était perdue. Je me demande d'ailleurs si dans le christianisme d'aujourd'hui, un certain nombre de chrétiens ne sont pas dans la même situation. Ils ont perdu la loi de Dieu, perdu le sens de la valeur de la loi de Dieu, le sens des instructions que Dieu donne pour les derniers temps. Quand vous y pensez, les réveils dans l'histoire ont toujours démarré par l'étude de la parole de Dieu. Une étude assidue de gens qui s'asseyent ensemble avec la Bible et qui l'étudient pour connaître la volonté de Dieu. L'Église adventiste, qui est le résultat d'un réveil, n'a pas démarré autrement. L'Église adventiste a démarré par des gens qui se sont assis pour étudier la parole de Dieu et qui ont voulu en extraire la volonté de Dieu pour eux dans les derniers temps. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, se trouvent quelques versets que j'aimerais relire avec vous et qui rappellent l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Psaume 119. J'aimerais regarder avec vous le verset 9 à 11. Psaume 119. Il est écrit ceci. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'étude de la parole de Dieu est nécessaire pour apprendre à connaître la volonté de Dieu, la vérité présente pour le temps où nous sommes. La Bible nous rappelle d'ailleurs que l'Église, du reste à la fin des temps, est constituée de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas perdu la loi de Dieu, ils l'ont mise à la bonne place. Dans le livre « Tragédie des siècles », je trouve ce paragraphe. « C'est seulement lorsque la loi de Dieu est remise à sa juste place, qu'un réveil de la foi primitive et de la piété peut avoir lieu parmi le peuple. Ainsi parle l'Éternel, dit-il écrit dans Jérémie, chapitre 6, verset 16. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous avez remarqué ce qu'il est dit dans ce texte? C'est seulement lorsque la loi de Dieu est remise à sa juste place qu'un réveil de la foi primitive et de la piété peut avoir lieu parmi le peuple. Ils avaient perdu la loi de Dieu. L'étude de la parole de Dieu joue par conséquent un rôle essentiel dans un réveil. Cette étude doit devenir une pratique, une habitude, non pas quelque chose auquel on a recours quand tout d'un coup la difficulté se présente, mais une étude de la parole de Dieu pour apprendre à connaître sa parole. Remarquez que dans l'histoire qui nous intéresse ce matin, et je reviens maintenant au deuxième livre des Rois, au chapitre 23, cette étude de la parole se fait tous ensemble. Par exemple, il est dit au début du chapitre 23, « Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel et avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. » Ils vont redécouvrir ensemble le contenu du livre de l'Alliance. Cette étude de la parole de Dieu, elle peut se faire bien entendu chaque jour à la maison, mais elle se fait aussi par l'Église, tous ensemble. Remarquez, la parole de Dieu, ils l'ont retrouvée dans le temple. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est aussi dans le temple, dans l'Église, qu'ils vont redécouvrir la valeur de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu est quelque chose qui est important non seulement pour nous en tant qu'individus, mais en tant qu'Église. C'est pour cela que nous avons l'école du sabbat. Il est important que nous soyons là pour étudier la parole de Dieu ensemble. C'est pour cela que nous avons le culte lorsque la parole de Dieu est proclamée. C'est tout un ensemble où l'Église est à l'étude de la parole. Remarquez maintenant que, en lisant ce texte de l'Alliance qui avait été découvert dans le temple, ils ont aussi appris à connaître la situation dans laquelle ils se trouvaient, eux-mêmes, spirituellement. Et aussi la situation dans laquelle ils allaient se trouver par rapport à l'intervention de Dieu. Regardez dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, quelques versets plus tôt, ce qu'il est dit au verset 13. Le roi parle ici et dit « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » En découvrant le livre, ils prennent conscience qu'ils sont en train de vivre un temps de jugement. À cause de leur infidélité, Dieu s'apprête à exercer un jugement sur son peuple. Et je crois que nous vivons aussi le temps du jugement. La prophétie de Daniel nous indique que nous sommes en train de vivre ce temps de jugement dans le ciel qui précède immédiatement le retour de Jésus. Mais le roi ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas se satisfaire d'avoir simplement redécouvert le livre de la loi. Il veut aller plus loin et il veut savoir ce que l'esprit de prophétie à lui dire. Et il va envoyer ses serviteurs pour consulter la prophétesse Hulda. C'est ce qui nous est mentionné au verset 14. Cette prophétesse habitait à Jérusalem et le roi va envoyer ses serviteurs pour la consulter. Il est heureux d'avoir redécouvert le livre de la loi, mais il veut maintenant savoir ce que Dieu a à lui dire comme vérité présente pour ce qu'il doit faire maintenant dans cette situation où il est. Pour cela, il va consulter la prophétesse. Et vous remarquez, à cette époque-là, c'était aussi une prophétesse qui avait reçu le don de prophétie. De la même manière, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes invités non seulement à faire de la parole de Dieu l'objet de notre étude, cette parole de Dieu qui est le pilier central sur lequel s'appuie notre foi, mais nous sommes aussi invités à recevoir les conseils de l'esprit de prophétie. Écoutez ce paragraphe qui est tiré du cinquième livre des témoignages écrit par Ellen White. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont le désir de la comprendre. Mais malgré tout cela, certains de ceux qui prétendent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs. Afin de laisser ces hommes et ces femmes sans excuses, Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la parole de Dieu qu'ils ont négligé de suivre. Le témoignage de l'esprit de prophétie est destiné à nous laisser sans excuse par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Le roi Josias ne s'est pas contenté de l'enseignement qu'il a redécouvert dans la loi et dans le livre de l'Alliance. Il avait besoin d'être guidé aussi par l'esprit de prophétie. De la même manière, si Dieu a choisi d'apporter à son Église des derniers temps des instructions supplémentaires pour attirer son attention sur les enseignements des Écritures, qui sommes-nous pour dire que ce n'a pas d'importance? Qui sommes-nous pour dire que cela est inutile et que nous n'en avons pas besoin? Le troisième ingrédient pour le réveil se trouve aussi dans l'histoire de Josias. Au début du chapitre 23, dans le deuxième livre des Rois, il nous est dit ceci au verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, et de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Josias prie Dieu et renouvelle l'alliance par rapport à la loi de Dieu. La prière est un élément essentiel aussi du réveil. Comment le réveil est-il possible? Comment est-ce que Dieu nous accorde son esprit? Jésus nous a donné la recette dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Évangile selon Luc, chapitre 11, au verset 13, il est dit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13, un texte que vous connaissez bien, où il est dit « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Demandez. La prière est ce moment particulier où nous sommes invités à parler à Dieu. Dans l'étude de sa parole, il nous parle. Dans la prière, nous lui répondons. Nous lui demandons de nous éclairer. Nous lui demandons de nous accorder son Esprit Saint. La prière et l'étude de la parole de Dieu sont des ingrédients incontournables et très forts dans chaque réveil. Écoutez ce paragraphe sorti du livre « Message choisi » d'Ellen White dans le volume 1. C'est un texte que vous connaissez bien, que nous aurons l'occasion de relire à plusieurs reprises. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père Céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais c'est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a promis d'accorder sa bénédiction par une confession de nos péchés, accompagnée d'humiliation, de repentance et de prières ferventes. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. C'est dire à quel point la prière joue un rôle essentiel, le renouvellement dans la vie de prière. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Église a proposé un programme de prière, un programme particulier qu'il est facile à retenir. Il s'appelle 777, où les frères et sœurs de l'Église mondiale sont invités à prier tous les jours, soit à 7 heures du matin, soit à 7 heures du soir, pour que le Seigneur produise dans son Église un réveil. Nous ne pouvons pas programmer un réveil. Dieu n'est pas à notre service, nous sommes à son service. Et ce que nous pouvons faire, c'est remplir, comme nous disait ce texte, les conditions du réveil. C'est un peu comme les capitaines de bateaux d'autrefois, qui disaient à leurs marins, « Montez les voiles !» Il n'y avait pas un brin de vent, impossible de naviguer, mais les marins montaient les voiles de sorte que, lorsque le vent allait se lever, ils étaient prêts à en profiter tout de suite. Ainsi, nous sommes invités, nous aussi, à connaître les conditions nécessaires pour qu'un réveil puisse se produire et à nous y préparer individuellement et collectivement en tant qu'Église. Le quatrième ingrédient pour un réveil biblique se trouve aussi dans notre histoire, au chapitre 22 du deuxième livre des Chroniques, au verset 19. Il nous est rapporté la réponse que Dieu va donner à la prière de Josias. Deuxième livre des Rois, chapitre 22, verset 19. Il est écrit ceci. « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est l'humilité et la repentance. C'est là aussi un ingrédient nécessaire. Mais bien sûr, nous avons l'habitude de présenter à Dieu nos fautes pour être pardonnés. Mais là, il s'agit d'aller un peu plus loin. Il s'agit de sortir de la routine, de cette prière quotidienne peut-être, dont nous avons pris l'habitude depuis des années. Il s'agit d'aller plus loin. Il s'agit de reconnaître que, par l'habitude, notre vie chrétienne est restée largement en dessous du plan que Dieu a pour nous individuellement et en tant qu'Église. Nous sommes restés en dessous du projet de Dieu et nous nous y sommes installés, de sorte que les choses fonctionnent, mais pas selon le plan et au niveau où Dieu aurait voulu que les choses fonctionnent, que la mission s'accomplisse et que l'Église avance. Finalement, un réveil, c'est comme une résurrection. C'est remettre un mort en vie. Et nous sommes invités, nous aussi, à mourir à nous-mêmes, de sorte que nous puissions être ressuscités par l'esprit de vie que le Seigneur veut nous donner. Dans le livre « Service chrétien », je lis cette phrase. Elle est très encourageante, en tout cas pour moi. Ellen White écrit « Il n'y a pas de limite à l'efficacité de celui qui, mettant le « moi » de côté, permet au Saint-Esprit d'agir dans son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. » Nous nous sentons souvent limités. Nous nous sentons impuissants et incapables. En réalité, il s'agit de mettre le « moi » de côté, de consacrer notre vie entière à son service pour lui permettre d'être entièrement efficace par ces outils renouvelés que nous pouvons devenir. L'humilité et la repentance. Le cinquième ingrédient d'un réveil se trouve aussi dans notre histoire, l'histoire de Josias, et j'y reviens au chapitre 23 du deuxième livre des rois. Chapitre 23, j'aimerais regarder avec vous le verset 21 et 22. Deuxième livre des rois, chapitre 23, au verset 21, il est écrit ceci. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. En découvrant ce livre, ils vont découvrir ce que Dieu demande d'eux et ils vont célébrer la Pâque. Mais la Pâque, de quoi nous parle-t-elle? La Pâque, c'est l'agneau. La Pâque, c'est le sang sur les montants de la porte. La Pâque, c'est l'agneau pascal. Et l'agneau, c'est Jésus. La Pâque, autrement dit, était un recentrage sur la personne même de Jésus-Christ. Remettre Jésus au centre de leur vie, de leurs préoccupations et de leur adoration. La Pâque, c'était en réalité tourner les yeux vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, se trouve ce texte intéressant concernant ceux qui sont sauvés. Il est dit au verset 4, « Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Je découvre dans l'Apocalypse que ceux qui sont rachetés, qui sont sauvés et qui font partie du peuple de Dieu à la fin des temps, suivent l'agneau partout où il va. Ils sont autrement dit devenus de vrais disciples parce que le disciple, c'est celui qui par définition suit son maître. Alors si ceux qui à la fin constituent ce groupe des sauvés en Jésus-Christ, s'ils ont appris à suivre l'agneau partout où il va, pourquoi ne pas commencer maintenant à suivre nous aussi l'agneau partout où il va, à être partout où il est, à suivre son exemple, à le mettre au centre de nos préoccupations, à le mettre au centre de notre étude, à le mettre au centre de notre vie d'Église, au centre même de la mission que nous avons à accomplir. Mettre Jésus au centre, lui rendre sa place centrale. L'apôtre Paul disait « Christ est ma vie ». C'était pour lui une manière de dire que Jésus était l'essentiel. Et souvenons-nous, la religion, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude religieuse, ce n'est pas même un héritage religieux. La foi chrétienne, c'est une personne. C'est d'abord Jésus. Et il est important dans un réveil que Jésus retrouve sa place centrale dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Dans le livre « Sons and Daughters of God » se trouve ce paragraphe. Ceux qui font du sacrifice extraordinaire de notre Sauveur l'objet de leur étude grandissent en grâce et en connaissance. Élevez l'homme du calvaire plus haut et toujours plus haut. Exaltez la croix de Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Élevez le Christ et lui rendre la place qui est la sienne. Le sixième ingrédient d'un réveil se trouve aussi dans notre histoire. Dans l'histoire de Josias, nous l'avons lu tout à l'heure, Josias a rassemblé tout le peuple. Il n'a pas gardé l'étude de la parole pour lui. Il a rassemblé le peuple dans sa totalité, les grands et les petits. Souvenez-vous d'ailleurs, dans le réveil que Élie a produit dans le peuple d'Israël de la part de Dieu, il avait fait la même chose. Il ne s'est pas contenté de parler au roi et d'inviter le roi pour résoudre le problème avec lui. Il avait rassemblé le peuple dans sa totalité sur le mont Carmel. Souvenez-vous aussi lorsque Dieu se manifeste d'une façon particulière à la Pentecôte. Il nous est dit dans le livre des Actes au chapitre 2, dans le premier verset, « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » C'est l'unité de l'Église. Alors je sais, nous pouvons étudier la parole à la maison, nous pouvons prier à la maison, mais l'Église n'est pas une option. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Épître aux Hébreux où l'apôtre Paul rappelle que certains déjà de son temps avaient pris une mauvaise habitude. Il est écrit dans le 10e chapitre de l'Épître aux Hébreux, « N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas les assemblées. L'Église n'est pas une option. En réalité, le moment de culte, que ce soit l'école du sabbat ou la prédication, c'est Dieu qui nous convoque. C'est dans ce jour du sabbat, la sainte convocation. L'Église n'est pas un cinéma où l'on va si le film est intéressant. L'Église n'est pas une option. C'est le lieu même de la présence de Dieu. Alors, s'il en est ainsi, qu'y a-t-il? Que peut-il y avoir dans nos vies qui nous empêche d'être là où Dieu nous a appelés? Le monde moderne, le christianisme moderne, a changé notre mentalité par rapport à l'Église. Et malheureusement pas pour le mieux. On a cherché à avoir dans les activités de l'Église d'abord quelque chose qui est intéressant, quelque chose de divertissant. On a fait aussi des activités de l'Église un objet de consommation socio-culturelle. On y vient d'abord pour rencontrer les frères et sœurs et les amis, et peut-être de moins en moins pour rencontrer Dieu. Cette mentalité moderne a changé aussi nos attentes par rapport au culte, a changé nos habitudes. Changer nos habitudes par rapport au culte, par rapport à la prédication, par rapport à la musique, par rapport même aux vêtements que nous portons lorsque nous nous présentons devant Dieu. Beaucoup de choses et beaucoup d'attentes ont été transformées par cette mentalité moderne de consommation que nous avons appliquée au domaine du culte. Aujourd'hui, nous pouvons facilement avoir cette idée. « Oh ben, je vais y aller si j'en ai envie. » L'Église n'est pas une option. Souvenez-vous, le Saint-Esprit s'est manifesté sur l'Église qui était rassemblée en un même lieu. Sans aucun doute, Dieu ne peut nous inspirer par son Esprit lorsque nous en avons besoin. Mais c'est sur l'Église rassemblée que Dieu a manifesté son Esprit et que le réveil s'est manifesté. Et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, je vois à cela deux raisons. La première, c'est que, en tant qu'individu, je fais partie du corps du Christ qui est l'Église. Et d'autre part, Dieu a une mission pour son Église. Je ne peux pas la remplir seul. Il faut que nous soyons ensemble pour la remplir. Le septième ingrédient d'un réveil se trouve aussi dans notre histoire de Josias. dans le chapitre 23, et nous n'allons pas le relire, il y a un long paragraphe à ce sujet-là, Josias va entreprendre dans le royaume des réformes importantes. Josias va se mettre en action, il va éliminer les cultes païens, détruire les temples païens, mettre de l'ordre et purifier le peuple. Josias veut non seulement restaurer le temple, il veut restaurer la foi de son peuple. Il s'engage dans une action et dans la mission qui est la sienne. C'est le septième ingrédient nécessaire d'un réveil, l'engagement personnel dans la mission de l'Église. Vous vous souvenez de ce passage qui se trouve dans la première épître de Pierre. J'aimerais le regarder avec vous au chapitre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2. L'apôtre Pierre ici rappelle en réalité l'objectif de cette Église naissante. Premier épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Pourquoi sommes-nous l'Église ? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. La mission de l'Église. L'Église, c'est ce corps de Christ que le Seigneur veut engager dans une action de sa part. Permettez que je vous lise encore ce paragraphe sorti du livre « Le service chrétien ». La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement et de tout notre cœur au service de Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres de l'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. L'engagement dans la mission est un de ces ingrédients nécessaires pour que le Seigneur nous donne les outils pour l'accomplir. Si nous n'avons de toute façon pas l'intention de l'accomplir, Dieu ne va pas gaspiller ses outils sur des gens qui ne veulent pas se mettre au travail de sa part. Ainsi, le Seigneur nous promet de nous accorder l'action de son esprit lorsque ces conditions pour qu'un réveil se produise sont remplies dans nos vies et dans l'Église. Je crois qu'il est nécessaire que ce réveil se produise. Et même si nous ne sommes pas capables de le programmer parce que nous sommes au service du Seigneur, nous pouvons monter les voiles pour que, au moment où le Seigneur le jugera bon, au moment où il fera souffler le vent de son esprit, nous soyons tous, chacun prêts à le recevoir. Amen.